VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, c'est Kia Badou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, la même heure à Abidjan, Bamako et Dakar. À la une de l'actualité, Jean-Pierre Bemba en liberté provisoire. L'ancien vice-président congolais a quitté le centre de détention de la CPI à La Haye. En Afrique du Sud, levée de l'état de catastrophe naturelle dans la région du Cap après une grave sécheresse. Le président américain Donald Trump a assuré que la menace nucléaire n'existait plus avec la Nord-Corée, et l'ONU poursuit les négociations au Yémen pour éviter une confrontation meurtrière dans la ville de Hodeïda. Tout d'abord, le journal du Mondial 2018 qui débute demain en Russie avec Yacouba Ouédraogo. C'est le grand rendez-vous du Mondial 2018. 32 équipes au total, dont 5 africaines. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eka et bonsoir à tous.
Alors nous sommes à J-1 de l'ouverture du Mondial 2018, mais déjà les choses bougent en Russie avec la désignation du trio États-Unis, Canada, Mexique pour accueillir la Coupe du Monde 2026.
Et oui Eka, le trio nord-américain a été désigné par les fédérations membres de la FIFA avec 134 voix contre 65 pour le Maroc. Le ticket États-Unis, Canada, Mexique va accueillir la première Coupe du Monde à 48 équipes. Pour le Maroc, il s'agit de son 5e échec après les revers de 94, 98, 2006 et 2010. Le président de la CAF, qui a porté cette candidature marocaine, qu'il a d'ailleurs qualifiée de candidature africaine, n'exclut pas l'immixtion du politique dans cet échec. Ahmad.
Je ne peux faire autrement, on a fait ce qu'on peut faire. Apparemment, c'est 45 pays en Afrique qui ont voté. Je pense que c'est honorable. Ce que j'avais toujours dit, avoir 100% actuellement, c'est très difficile. Puis, vu les fortes pressions politiques en Afrique de certains chefs d'État, c'était pas évident.
C'était donc Ahmad, président de la Confédération africaine de football. 45 pays africains ont voté sur les 54 fédérations membres de la CAF et seulement... 45 pays ont voté pour le Maroc sur les 54 fédérations membres de la CAF. La déception est de l'un des parrains de la candidature marocaine, l'ancien international camerounais Joseph Antoine Bell, qui ne cache pas bien sûr son amertume. Écoutons-le.
Les Africains au moins auraient dû saisir l'occasion pour dire voilà ce que l'Afrique peut offrir, cette émancipation africaine que nous revendiquons. C'était le jour de le montrer. Et là, on a échoué. Et les Africains ont voté pour rajouter une Coupe du Monde aux autres et non pas pour l'organiser nous-mêmes. Il vaut mieux tomber les armes à la main et j'aurais préféré que l'Afrique n'ait que 54 voix, mais 54 voix africaines. Ça aurait été significatif.
Joseph Antoine Bell, l'un des parrains de la candidature marocaine. Ekia.
Alors, 2026, c'est donc Canada, États-Unis et Mexique en Russie en 2018. Et aussi, des choses se passent vraiment en Russie. Un coup de tonnerre dans l'équipe espagnole qui a changé de sélectionneur à 2 jours de leur premier match d'ouverture contre le Portugal.
Oui, et qui a le directeur sportif de la Rora, Fernando Hierro, a été nommé à la tête de la sélection espagnole en remplacement de Rulén Lopetegui qui a signé hier au Real Madrid après la démission de Zinedine Zidane, éliminé en poule en 2014 alors qu'elle était tenante du titre. L'Espagne aborde revancharde le Mondial 2018. Le sort l'a placé dans le groupe B en compagnie du Maroc et de l'Iran, mais aussi du Portugal.
2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais bien avant. Russie 2018 commence donc dès demain.
Oui, et qui a la succession de l'Allemagne, vainqueur du Brésil 2014, va s'ouvrir dès demain. Vous le disiez tantôt, 32 équipes sont en lice, dont 5 africaines. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Après 3 matchs nuls contre l'Ouzbékistan 1-1, la Bosnie 0-0 et le Luxembourg. Et le Luxembourg également 0-0. Les Lions de la Teranga ont perdu face à la Croatie 1-2 avant de remporter leur dernier match de préparation 2-0 face à la Corée du Sud. Sa seule victoire, d'ailleurs, dans ces matchs amicaux pour ce qui est du Sénégal. Pas de quoi entamer le moral du sélectionneur qui s'est dit confiant. On écoute Aliou Cissé.
Nous venons ici avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté pour représenter notre pays. Essayer de faire le maximum pour nous. Je crois que pour un footballeur professionnel, ce qui est important, c'est de jouer une Coupe du Monde. Pour un entraîneur, la chose la plus importante, c'est coacher une équipe qui joue une Coupe du Monde. Donc c'est une fierté pour nous. Nous allons rencontrer 31 équipes, grandes équipes. Le Sénégal aussi fait partie de ces grandes équipes. On a des arguments à faire valoir.
C'était donc Aliou Cissé qui prévoit rencontrer 31 équipes et donc arriver en finale de cette Coupe du Monde 2018.
Il a raison d'être optimiste. En tout cas, c'était le journal du Mondial signé Yacouba Ouédraogo que nous retrouverons donc demain dans le journal du Mondial. Merci beaucoup Yacouba.
Merci à vous Ekia.
Maintenant, le reste de l'actualité dans le monde avec vous et Ekia Badou. Liberté retrouvée pour Jean-Jacques Pierre Bemba. L'ancien vice-président congolais a quitté le centre de détention de la CPI à La Haye. C'est à la suite de son acquittement en appel après avoir été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Bagassi Koura.
Monsieur Bemba a quitté le centre de détention hier soir, a déclaré son avocat Peter Hens, ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre puis vice-président de la RDC. Monsieur Bemba avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison par la CPI pour des meurtres, viols et pillages commis par sa milice en Centrafrique. Cependant, monsieur Bemba reste sous la surveillance de la cour en attendant le feu vert des autorités belges. Il y a une demande de séjour. L'ancien vice-président doit en effet traverser la frontière pour rejoindre son épouse et ses 5 enfants installés en Belgique. L'AFP rapporte qu'une demande de permis de séjour est examinée ce mercredi à Bruxelles par le service du secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Par ailleurs, la Cour pénale internationale a annoncé le lancement d'un programme d'assistance d'1 million d'euros pour les victimes centrafricaines des rebelles du MLC de Jean-Pierre Bemba.
En Guinée équatoriale, les deux principaux partis politiques d'opposition ont posé des conditions à leur participation au dialogue politique convoqué lundi par le pouvoir en place. La libération des prisonniers politiques, la participation de la société civile et la présence de la communauté internationale sont les trois conditions réclamées par ces partis d'opposition pour participer au dialogue politique prévu du 16 au 21 juillet. Selon la télévision d'État, l'Église catholique et la société civile prendront part à ce dialogue. Au Gabon, polémique sur la disparition fin mai de plusieurs collégiens Libreville. La famille de l'un d'eux a affirmé avoir porté plainte pour avoir plus d'informations. Darlin Stécy et 3 autres collégiens de Libreville, âgés de 12 à 15 ans, sont morts par noyade fin mai. Les parents des 2 collégiens ont affirmé dans des médias locaux que des traces de coups étaient visibles sur les corps, suscitant la polémique sur les réseaux sociaux. L'armée malienne a annoncé avoir neutralisé 10 terroristes dans le centre du pays. Cette région est particulièrement touchée par les violences djihadistes, se voient mêlées à des conflits intercommunautaires. Le ministre de la Défense, Tchéna Koulibaly, a indiqué que l'armée a aussi récupéré l'armement, les engins explosifs et autres matériels de guerre. Au Togo, la Cour constitutionnelle a appelé le gouvernement et la commission électorale à organiser des élections législatives d'ici la fin de l'année, comme le prévoit la Constitution, au moment même où le dialogue politique censé sortir le pays de la crise s'enlise depuis 1 an. Selon un communiqué lu à la télévision nationale mardi soir, les législatives doivent avoir lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés, soit le 19 août. Au Nigeria, la police de Lagos a annoncé qu'elle enquêtait sur un homme soupçonné d'être à la tête d'une banque de sang clandestine après l'hospitalisation d'un adolescent qui a donné près de 2 litres de sang en moins d'une semaine. Le suspect tenait une clinique dans son appartement de Lagos où la police a découvert 7 autres litres de sang. L'Afrique du Sud a levé l'état de catastrophe naturelle qui a été décrété mi-février en raison de la grave sécheresse qui sévissait dans la région du Cap. Le point avec Marie Benson.
Le ministre des Affaires traditionnelles, Zweli Mrize, n'a pas renouvelé l'état de catastrophe naturelle qui a expiré aujourd'hui en Afrique du Sud. À la mi-février, la mesure a été décrétée dans tout le pays alors que le Cap était menacé d'une rupture d'approvisionnement en eau potable suite à une grave sécheresse. Grâce à une réduction drastique de la consommation d'eau par les habitants, le jour zéro, où la coupure d'eau totale des robinets, a été évitée. Ces dernières semaines, il y a eu d'importantes pluies sur la région du Cap, ce qui a permis un retour à la normale. Le niveau des barrages et des cours d'eau sont plus élevés que l'an dernier, mais les habitants continuent leurs efforts sur la consommation d'eau à cause de l'incertitude avec les précipitations.
Au Zimbabwe, un des deux beaux-fils de l'ancien président Robert Mugabe est menacé d'être expulsé d'une propriété d'Harare pour des arriérés de paiement de loyer de plus de 3 ans. Une dette qui s'élève à près de 66 000 dollars.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, les forces loyales au gouvernement appuyées par les Émiratis et les Saoudiens ont lancé leur offensive sur le port stratégique de Hodeïda, contrôlé par les rebelles Houthis. L'émissaire de l'ONU et plusieurs ONG se disent extrêmement inquiets pour la population. Le point avec Idriss Fall.
Le grand port de Hodeïda sur la mer Rouge est un enjeu stratégique, point d'entrée des importations et de l'aide humanitaire au Yémen. Martin Griffiths, émissaire de l'ONU, se dit extrêmement préoccupé et a appelé à la retenue. Une quinzaine d'ONG ont exprimé leur vive inquiétude face à cet assaut sur une cité de 600 000 habitants. Save the Children et l'UNICEF tirent la sonnette d'alarme pour quelques 300 000 habitants dans cette ville. Amnesty International estime que l'opération militaire menace les civils et les opérations humanitaires. Le Comité international de la Croix-Rouge a affirmé qu'elle ne ferait qu'exacerber une situation déjà catastrophique. La France rappelle que seule une solution politique négociée, y compris à Hodeïda, permettra de mettre fin de manière durable à la guerre qui dure depuis 3 ans au Yémen.
Le gouvernement de l'autorité palestinienne a annoncé l'interdiction provisoire de rassemblements en Cisjordanie occupée où une nouvelle manifestation était prévue en soirée pour réclamer la levée des mesures punitives imposées à la bande de Gaza dirigée par le Hamas. Plusieurs centaines de personnes avaient déjà manifesté dimanche à Ramallah où siège le gouvernement pour réclamer la fin des mesures prises par l'autorité palestinienne contre l'enclave que contrôle le mouvement islamiste Hamas, rival du parti Fatah du président Mahmoud Abbas. Les forces kurdes irakiennes ont arrêté plus de 2700 djihadistes irakiens et étrangers entre la fin 2017 et mars 2018 selon un haut responsable de la région autonome. Il a précisé que 853 d'entre eux avaient été remis aux autorités fédérales de Bagdad et a assuré qu'Erbil était prêt à coopérer avec Bagdad pour en remettre 300 autres aux majorités des Irakiens. Au total, selon les chercheurs, près de 20 000 personnes suspectées d'appartenir à l'EI ainsi que leurs enfants ont été arrêtés lors de l'offensive pour bouter hors de l'Irak les djihadistes qui s'étaient emparés en 2014 du tiers du pays. Des divergences entre Paris et Rome. Au cœur des tensions, l'Aquarius, le navire transportant 629 migrants. L'Italie et Malte ont refusé que le bateau accoste sur leur côte. Le président Emmanuel Macron a dénoncé la part de cynisme et d'irresponsabilité de Rome. Le ministère italien des Affaires étrangères a convoqué ce matin l'ambassadeur de France à Rome. Matteo Salvini affirme que l'Italie tout entière attend des excuses officielles. Mais de son côté, Paris dit n'avoir reçu aucune demande officielle d'excuses. Le navire, quant à lui, a pris la direction de l'Espagne, un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. Washington espère que l'essentiel du désarmement nord-coréen interviendra d'ici fin 2020, avant la fin du mandat de Donald Trump, a déclaré à Séoul le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Nathalie Barge.
Le président Donald Trump est revenu ce matin à Washington. Dans un tweet, il assure qu'il n'y a plus de menace nucléaire de la Corée du Nord. Hier à Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un ont signé un document dans lequel la Corée du Nord s'engage en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Cette formulation a été critiquée par les experts car elle ne mentionne pas les conditions de Washington voulant que la dénucléarisation soit vérifiable et irréversible. Interrogé sur cette absence, Mike Pompeo, qui se trouvait à Séoul, a assuré que cela était inclus de facto dans le terme complète. Le secrétaire d'État américain dit avoir bon espoir d'y parvenir dans les 2 ans et demi à venir, mais selon lui, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place à présent au magazine. La Cour pénale internationale a annoncé le lancement d'un programme d'assistance d'1 million d'euros pour les victimes centrafricaines des miliciens de Jean-Pierre Bemba. L'ancien chef rebelle et vice-président a quitté la CPI mardi soir après son acquittement. Eddie Issengo a joint à Paris Delphine Carlsen de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme.
Nous accueillons plutôt positivement cette décision du fonds d'accélérer ce programme d'assistance à ces victimes qui ont tout perdu dans les attaques de 2002 et 2003 et qui ont subi de graves souffrances physiques et psychologiques et qui sont encore aujourd'hui stigmatisées et rejetées par leur communauté.
1 million de dollars pour les victimes, sont-ils assez pour autant de personnes?
On parle de milliers de victimes, non seulement des troupes du MLC, mais de tous les partis au conflit qui a fait rage en RCA en 2002 2003. Ça sera effectivement un programme d'assistance qui aura pour but de donner une sorte des formes de réhabilitation physique et psychologique. Et donc ça peut prendre différentes formes. Ça ne sera pas une indemnisation individuelle pour chaque victime, mais plutôt probablement des programmes de soutien médical, de soutien psychologique, peut-être des programmes de sensibilisation à l'égard des communautés, de manière à justement atténuer la stigmatisation qui résulte, notamment des violences sexuelles qui ont été subies en grand nombre. Probablement, ça ne sera pas une indemnisation individuelle pour chacune des victimes, mais plutôt une assistance globale qui pourra bénéficier à un grand nombre de victimes. Mais nous attendons encore effectivement des précisions sur les types de projets qui seront mis en œuvre.
On a enregistré dans d'autres procès des revendications après que les victimes aient été indemnisées. Est-ce qu'on ne craint pas que ça puisse être le cas pour ces procès-ci?
Nous espérons en tout cas que les programmes mis en place seront définis en prenant en compte toutes les demandes et les préoccupations et les demandes des victimes afin qu'elles répondent au mieux à leurs besoins et à leurs préoccupations et de manière à ne pas créer effectivement de trop grosses déceptions. Il faut évidemment reconnaître qu'elles attendent depuis plus de 15 ans des formes de réhabilitation et de soutien qu'elles n'ont pas. Le défi est grand pour essayer de répondre au mieux aux besoins.
Vous dites que l'acquittement puis la libération provisoire de M. Jean-Pierre Bemba était un choc. En quoi les maintiens de celui-ci en détention auraient soulagé les victimes?
C'est surtout le verdict en lui-même, l'acquittement en lui-même qui est un choc. Nous avons ces derniers jours exprimé notre étonnement par rapport à l'interprétation des trois juges de la majorité de la Chambre d'appel, l'interprétation du statut de la CPI et notamment l'interprétation assez restrictive de la responsabilité du supérieur hiérarchique et du chef militaire.
Bemba libéré, certains craignent pour lui par rapport à la situation qui prévaut en RDC. Qu'en dites-vous?
Il me semble que sa sécurité et sa protection est peut-être moins en jeu en Belgique. On reste particulièrement vigilant, par contre, par rapport à la sécurité et la protection de tous les défenseurs des droits humains qui ont pu documenter tous les crimes commis par les troupes du MLC.
Delphine Carlens de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme à Paris.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
En Haute-Guinée, les affrontements sont récurrents entre les populations locales. Le plus souvent, l'accès à la terre est l'une des causes pour la recherche de l'or ou la culture de cajou. Pour faire le point, Idriss Fall a joint Amadou Thiam, journaliste à Kankan, dans le nord de la Guinée.
L'orpaillage artisanal est très développé. C'est quelque chose qui n'est pas interdit par l'État. Et les populations profitent pour se faire un peu d'argent. Les sous-préfectures, des districts s'affrontent des fois pour dire bon, telle partie appartient à mon district, telle autre partie appartient à ma sous-préfecture, etc., etc. Des conflits comme ça très récurrents. Prenez par exemple la sous-préfecture de Tchimbakoua où il y a eu des affrontements entre un secteur et un district, le district de Kokou et le secteur de Sananfra. Le secteur de Sananfra et le district de Kolé réclament la même zone d'exploitation. Il y a eu des blessés. Il y a plus d'une centaine de motopompes qui ont été brûlées. Et ce différend existe il y a de cela une dizaine d'années et la justice avait déjà tranché entre ces deux populations. La justice des fois tranche, les populations n'acceptent généralement pas de respecter les décisions de justice. Un autre cas très récent, c'est entre, par exemple, Fissa Kolé et Nyandankoua, où on parle encore d'affrontements qui ont fait état d'un mort et d'une vingtaine de blessés. Il y a de cela environ 72 heures que le ministre de l'administration du territoire, il y avait des problèmes, le ministre de l'administration du territoire avait fait un déplacement pour que ces populations-là se réconcilient afin vraiment qu'il y ait la paix et la quiétude sociale dans la région.
Mais en dehors de ça, il y a aussi des affrontements liés à la terre et à la culture de la cajou.
Avec la politique agricole de l'État, il y a eu la relance de la culture de cajou. Il faut voir, le prix d'un kilo de cajou avant en Guinée était aux environs de 2 000, 3 000. Mais actuellement, il faut voir, depuis l'année dernière, on parle de 6 000, 7 000, 8 000, des fois voire même 10 000. Alors les gens, un peu partout, des terres qui n'étaient pas utilisées avant. Alors actuellement, les gens se sont orientés vers les cultures d'exportation. Et cela crée des problèmes entre les communautés. C'est les mêmes problèmes qui se visent lorsqu'il s'agit aussi des terres que les gens réclament pour l'exploitation minière. C'est le même problème. Mais vous allez voir que ces problèmes-là sont souvent très reculants dans la région qu'on appelle en Guinée la Haute-Guinée, surtout. Surtout, c'est en Haute-Guinée où on entend beaucoup de problèmes de ce genre liés aux terres agricoles et aux terres liées pour l'exploitation minière.
Amadou Tcham, journaliste à Cancan, dans le nord de la Guinée.
Raissa Girondin avec vous. Washington Forum revient sur le sommet inédit Donald Trump-Kim Jong-un. Le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen ont signé un document mentionnant une dénucléarisation de la péninsule coréenne en échange de garanties de sécurité. Que retenir de cette rencontre historique? Quelle est la valeur de l'accord signé? Que dit-il? Va-t-il changer la donne? Quelles peuvent être ses conséquences sur les relations internationales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
L'Espagne a lancé les préparatifs pour accueillir l'Aquarius qui devrait accoster au port de Valence vendredi ou samedi. Le gouvernement espagnol coordonne ses efforts pour recevoir et identifier les 630 migrants avec l'exécutif régional de Valence et la Croix-Rouge. Pour l'Organisation internationale des migrants, il faut que l'Europe revoie totalement sa politique de migration. Bagassi Courage ou à Genève, Léonard Dolé, l'un des porte-parole de l'OIM.
Je pense que la situation est déjà beaucoup mieux pour les 630 qui sont à bord de ce navire. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui se passe avec les autres migrants qui arrivent après, derrière eux. Ça, c'est le problème.
Alors, vous avez notamment félicité l'Espagne pour ce geste, mais vous critiquez de façon générale la gestion européenne des migrants.
Oui, parce qu'il n'y a pas assez de support pour les nations sur la front line, si vous voulez, sur devant... le continent de l'Afrique, ils font tout le travail, ils aident beaucoup de migrants. Il y a les pays du nord de l'Europe sont un petit peu aveugles à ce problème.
Et comment est-ce que ces pays pourraient faire pour mieux accueillir les migrants?
Je pense que d'abord, il faut avoir une distribution des migrants, il faut avoir un système légal plus efficace. Une grande partie du problème, c'est que c'est pas assez efficace, c'est le problème de base. Il y a des gens qui ne sont pas des réfugiés et qui sont dans le système légal pour des années et des années. Et franchement, ils doivent retourner chez eux s'ils n'ont pas le droit d'être là.
L'OIM prône aussi la révision du traité de Dublin. Qu'est-ce que c'est ce traité-là?
Le traité de Dublin, c'est l'idée que l'endroit où les migrants arrivent, c'est l'endroit où ils doivent être procédés. Et ça, finalement, ça donne des problèmes si tout le monde arrive dans les pays de la frontière, si vous voulez, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la Malte, Cyprus et la Grèce. Ils font tous à la fin.
Et donc, du coup, ces pays sont débordés.
Exactement, ils sont débordés finalement.
Et alors que des pays comme la France, qui sont un peu plus à l'intérieur et qui ont plus de moyens, ne reçoivent pas autant de migrants.
Ils ne sont pas assez touchés, alors c'est pas assez proche. Et ça doit être plus proche. Quoi.
Vu cette période qui commence, est-ce que vous attendez à plus de migrants dans les mois à venir?
Je pense que c'est absolument... absolument le cas que ça va se passer parce que finalement, c'est une question de la démographie. L'Afrique devient plus grande, n'est-ce pas? Tout le monde le sache. Et effectivement, je pense que comme on a suggéré plusieurs fois, il faut que l'Europe est très généreuse et très aimable à ses voisins parce qu'on va ajouter 1 billion de personnes bientôt. Alors peut-être que c'est une idée.
Leonardo Ile, porte-parole de l'OIM, joint par Bagassi Koura.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La Coupe du monde de football en Russie démarre dans quelques heures, dans 24 heures. Le continent représenté par 5 équipes, dont le Sénégal, un pays qui a vu la création ces dernières années de centres de formation comme Génération Foot. 3 de ses ex-pensionnaires sont dans l'équipe sénégalaise, parmi eux la star Sadio Mané, faisant la fierté de tout le centre. Reportage à Dakar, Abdourahmane Dia.
Une séance d'entraînement pour des jeunes qui aspirent à suivre les pas de grands noms du football sénégalais qui, il y a quelques années seulement, étaient passés par ce même centre. Des jeunes rêveurs et motivés à devenir footballeurs professionnels et porter un jour le maillot national. Amadi Lamine Conté, 21 ans, est à Génération Foot depuis 4 ans.
Si on voit certains joueurs qui étaient ici et jouer à la Coupe du Monde, ça nous fait une fierté parce qu'on a eu à côtoyer certains joueurs comme Ismaël Sarr qui était ici avec nous. Donc si on le voit jouer jusqu'à marquer des buts en équipe nationale, je peux dire que c'est notre fierté, quoi.
Un rêve porté par Madi Touré, le fondateur de Génération Foot, en partenariat avec le club français du FC Metz.
Quand on prend ces jeunes à bas âge, qu'à la sortie, ils réussissent, ça peut que nous faire plaisir et une motivation supplémentaire. Ça veut dire que le travail que nous sommes en train de faire est un bon travail. Et nous voulons continuer à sortir des gens comme Sadio Mané, mais plus fort que Sadio Mané.
Le centre accueille aujourd'hui 120 pensionnaires qui allient études et sport. Et pour le formateur Abdoulaye Sarr, le football sénégalais devra désormais compter avec ses académies.
Aujourd'hui, il faut dire que quand on voit la configuration de notre équipe nationale pour Russie 2018, mais nous voyons exactement que c'est des jeunes, pour la plupart, nés ici. Même s'il y a des Sénégalais nés à l'étranger, surtout en France, mais la part de jeunes formés au Sénégal, nés au Sénégal, à cette part domine largement dans l'effectif qu'il y a. C'est le travail des clubs, mais aussi des centres de formation qui, depuis quelques années, sont installés ici.
Et le manager général, Olivier Perrin, voit même une amélioration des conditions depuis la création du centre.
Quand j'ai reçu Sadio Mané à Metz et Diafa Sakho, ils n'ont pas travaillé sur ces structures ici. Et ces garçons-là ont été obligés de faire un an et demi de centre de formation avant de pouvoir postuler à jouer en professionnel. Ce qui n'est pas le cas des joueurs qu'on envoie aujourd'hui qui vont directement en professionnel et qui sont beaucoup plus prêts à partir. Voilà.
Ces jeunes footballeurs vont donc suivre cette Coupe du Monde dans l'espoir d'être un jour à la place de ceux qui les ont précédés au centre. Abdourahmane Dia, Dakar, VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Sims Loumami. À la console, Sidrak Franklin. Et Kiabadou à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités.
One dream, one moment, one team, one you. Lights hot, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, where y'all at? We right.